Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
Je ne vais pas présenter longuement les amis du monde diplomatique. Je pense que vous connaissez tous. Vous connaissez tous le Monde diplomatique qui est un journal et les amis du monde diplomatique qui sont des lecteurs de ce journal. Vous savez peut-être aussi que l'association Amis du monde diplomatique est à 24% dans le capital du monde diplomatique. Le restant étant 25% pour une association qui représente les gens qui travaillent au monde diplomatique, 25%, et 51% Le Monde, le journal Le Monde. On va parler des médias aujourd'hui. Alors, je voulais vous montrer une page du dernier Monde diplomatique. Cette page, cette double page s'appelle « Médias, qui possède quoi ?». Initialement, j'avais prévu de la projeter ici, mais je n'ai pas réussi à avoir cette carte-là avec la précision voulue pour que vous puissiez lire. Donc, vous ne devez pas vous inquiéter. D'abord, si vous êtes abonné au Monde diplomatique, vous avez reçu la carte. Si vous achetez le journal de décembre, vous aurez la carte dedans. Et sinon, vous allez sur le site du Monde diplomatique et vous pouvez regarder la carte sur le site. La carte, vous la voyez comme ça, mais on peut zoomer sur une partie de la carte pour lire le détail dans telle région, dans tel coin, quels sont les journaux, à qui ils appartiennent et tout ça. C'est une carte intéressante, donc je vous la laisse découvrir si vous pouvez. Pour le reste, on reçoit aujourd'hui Pauline Pernaud, qui est journaliste, et je vais demander à Georges de vous la présenter. Je dirais simplement que donc elle a écrit un livre qui est à 15 € et qui s'appelle « Les médias contre la gauche ». Ça tombe bien, c'est justement le titre de ce soir. Donc Georges va vous présenter la soirée de ce soir. Bonne soirée à tous.
Bon, ben, à mon tour, merci d'être là. En ces temps difficiles, non seulement sur le plan climatique, mais également sur le plan politique et social. Alors, les médias contre la gauche. Traditionnellement, et c'est encore dans nos imaginaires, les médias français se pensent comme des contre-pouvoirs. Mais la réalité est tout autre. La presse écrite et audiovisuelle, les réseaux même, etc., sont dominés par un journalisme de révérence aux mains de groupes industriels et financiers. Dans un périmètre idéologique minuscule, très restreint, se forme une bipolarisation autour de figures d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen, de leurs thématiques sécuritaires et économiques. La gauche sociale en est pratiquement absente. D'où le titre « Les médias contre la gauche ». L'effondrement intellectuel du journalisme politique laisse place au monopole absolu de la pensée néolibérale. Le storytelling remplace l'information, le relativisme sans ancrage de la post-vérité envahit nos esprits. C'est inquiétant, car sans une part d'information libre, factuelle, il est très difficile de se faire une opinion, d'agir en citoyen libre et indépendant, rester sourd à la propagande officielle omniprésente. Mais subsistent cependant quelques îlots de résistance. Je citerai Le Monde diplomatique avec ses 100 800 abonnés, le journal français le plus traduit et diffusé géographiquement de par le monde, Le Canard enchaîné, L'Humanité, bien entendu, et je n'oublierai pas surtout la Crémade qui se bat sur tous les fronts pour essayer de garder une presse, pour promouvoir une presse libre. C'est dans ce contexte délétère que les amis du monde diplomatique invitent Pauline Pernaud, que nous remercions. Notre attention a été attirée par la parution de votre dernier livre, de votre livre, Les médias contre la gauche. Vous y faites le procès du verrouillage médiatique et dévoilez le monopole absolu de la pensée libérale dans les médias et l'imbrication de la profession dans le monde patronal. Vous abordez notamment le traitement des différents projets de réforme par les chefs-lieux éditoriaux souvent transformé en SAV du gouvernement. Vous n'y allez pas de main morte face aux chiens de garde qui, eux, ont la dent très très dure. Voilà, c'est à vous.
Bonsoir, merci pour l'invitation et puis merci pour votre présence. Je vais peut-être commencer par dire quelques mots d'Acrimed, même si je pense que vous êtes un certain nombre à connaître l'association. Je dis quelques mots parce que c'est vrai qu'il y a mon nom sur le livre dont je vais en partie parler ce soir, hein, mais c'est surtout un ouvrage collectif dans le sens où... Évidemment, il s'inspire, il compile beaucoup de travaux, d'articles qu'on a rédigés collectivement dans l'association sur une période, j'y reviendrai, mais qui court en gros de 2017 à 2022, qui couvre le premier quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc voilà, Acrimed, c'est une asso qui est née en 96, hein, dans la foulée du mouvement social de 95. C'est une association qui réunit des usagers des médias, des journalistes, des chercheurs, des chercheuses, des militants, et qui donc essaye de porter une critique radicale des médias, de contester l'ordre médiatique existant, la marchandisation de l'information, et in fine un peu tous les biais qui, selon nous, conduisent à la production d'une mauvaise information, enfin d'une malinformation, d'une information biaisée. Voilà, on a un site internet où on publie nos articles dont l'accès est gratuit. On est aussi une asso, donc on intervient autant qu'on peut, on participe aux manifestations, on distribue des tracts, etc., etc. Voilà, je vous dis ça, je vous demande peut-être un peu d'indulgence pour ce soir, parce que on est une petite association, ça repose sur assez peu de force, 4 salariés pour être précis, dont 2 à mi-temps. Et donc moi je suis salariée de la rédaction d'Acrimed, et tu le disais en introduction, les temps là sont difficiles, et je pense que c'est aussi important de souligner que l'exposition là aux médias depuis ça date pas d'hier, mais là depuis 2 mois est quand même passablement compliquée, et du coup voilà, j'ai un peu fait les frais là d'une surexposition, et des fois c'est pas si facile de continuer sereinement à mener le travail, parce que non parce que le livre est sorti en mars dernier. Mais là, on est dans une période effectivement très raide. Donc voilà, je pense que je vais pas vous résumer le bouquin chapitre par chapitre. Je vais essayer d'exposer les grands traits, et puis après, je pense qu'on peut privilégier les échanges si vous avez des questions. En général, ça se passe comme ça, et puis il y a plein de médias. Concerne tout le monde, quoi. Je disais, la période, elle est compliquée. Le livre parle beaucoup du journalisme politique. Je pense que là, j'ai repris le travail il y a 2 jours, et on est de nouveau dans une séquence médiatique un peu compliquée. De toute évidence, le microcosme du journalisme politique parisien s'agite de nouveau autour d'un tweet là dernièrement de Jean-Luc Mélenchon, qui prend à partie directement l'éditorialiste de LCI, Routel Krief. Alors on peut, je sais pas si donc il l'accuse de il emploie des mots comme fanatique, il l'accuse de manipuler l'information, et de, entre autres choses, on peut trouver que le tweet est pas super fin, que la critique des médias mérite sans doute mieux que quelques signes sur Twitter, etc., etc., etc. Mais force est de constater que ça a déclenché quand même dans la profession beaucoup de réactions indignées, un soutien à la journaliste qui est même érigé garante de la démocratie, voilà, quand on connaît en plus voilà, son parcours, et puis elle a pu faire l'objet de, évidemment, sa façon de traiter l'information a pu faire l'objet de critiques, et puis la réaction de Jean-Luc Mélenchon était en réaction en fait à un entretien dans une grande émission politique de LCI qui avait eu lieu la veille, ou je crois que c'était ce dimanche, où était invité Manuel Bompard, et où, comme de coutume dans ce genre d'émission, disons que l'expression de Manuel Bompard a été passablement contrainte, et notamment par cet éditorialiste qui, comme tout éditorialiste qui se respecte, ne pose pas des questions, mais comment dire, déguise des éditos en questions. Et je l'ai réécouté tout à l'heure. Je vous lis par exemple une de ces prétendues questions, donc adresse à Manuel Bompard, hein, donc qui est député France Insoumise. Je cite :« Votre parole a été constante. » Il est alors question du conflit israélo-palestinien. « Votre parole a été constante puisque vous n'avez pas retenu le caractère terroriste de l'attaque du 7 octobre. Vous n'avez pas montré d'empathie particulière pour les otages. Vous n'avez pas montré d'empathie particulière pour les femmes violées et mutilées. Et par ailleurs, vous parlez de paix civile. Mais hier, le discours de Jean-Luc Mélenchon à la manifestation de la République, on va l'écouter et je vais vous demander si c'est vraiment un discours qui encourage la paix civile. » Voilà, c'est ce qu'on appelle dans le langage des grands journalistes politiques, c'est ce qu'on appelle une question. Donc évidemment, il faut quand même comprendre quand on est évidemment sur un plateau de télévision, même si évidemment ces personnalités politiques sont plus ou moins rodées, mais à quel point ça crée un cadre quand même particulièrement contraignant. Et de toute évidence, il a fallu que Manuel Bompard, avant de répondre à la deuxième interrogation, déconstruisent en fait, comme ça devrait être toujours le cas, la question de Ruth El-Krieff qui comportait un certain nombre de fausses informations. Je revenais un peu là-dessus parce que c'est vrai que c'est assez symptomatique de la médiocrité, de la partialité du journalisme politique dominant, et plus largement. C'est quand même symptomatique d'un délitement, d'une dégradation et surtout de la droitisation sans fin du débat public, et en particulier effectivement depuis les atrocités du 7 octobre commises par le Hamas. Il y a évidemment, au-delà du traitement de l'information internationale en tant que telle sur laquelle il y aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire, et on a fait... On a essayé, en tout cas, à Acrimed, de faire trois longs articles, un peu de cadrage là sur la question, mais sur le traitement du champ politique par le journalisme politique, on note quand même un déchaînement des éditorialistes et commentateurs les plus en vue contre la France Insoumise, avec des déformations des propos, tout fonctionne par insinuation, etc. Et ça crée quand même des conditions particulièrement délétères du débat public. Alors évidemment, c'est pas nouveau. C'est une période de crise en plus multiple, quoi. Et on sait que dans les périodes de crise, les chefferies éditoriales serrent les rangs. Et que les journalistes, encore une fois, les plus en vue, mettent au jour, en fait, de manière beaucoup plus flagrante que d'ordinaire, le rôle d'acteurs politiques, en fait, à part entière, qu'ils incarnent, et en particulier contre une partie de la gauche. C'est ce qu'on a essayé de démontrer là minutieusement dans le livre. Donc, je vous le disais, en étalant un peu l'analyse sur la période du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, 2017-2022. C'est vrai qu'on conclut là-dessus. En 93, Pierre Bourdieu, il parlait des médias, des grands médias, et les disait au service objectif de la contre-révolution néolibérale. Je pense que conclut en disant qu'il n'y a pas grand mot à toucher et que la légitimation, en tout cas, de l'ordre établi néolibéral et autoritaire va toujours bon train. Peut-être vous préciser un peu le périmètre de la critique qu'on pratique dans Acrimed, parce que c'est vrai qu'on parle des grands médias, donc en gros, grands médias, vous avez montré la carte qu'on co-édite avec le monde diplomatique. C'est évidemment les médias qui ont la vocation ou la prétention plutôt à être des médias de masse et qui se divisent entre, d'une part, un pôle privé, tu l'as dit, aux mains d'industriels milliardaires dont le champ d'activité premier n'est pas du tout l'information, mais le secteur bancaire, les BTP, la logistique, l'armement, etc., etc. Un pôle public qui évolue dans ce champ concurrentiel et qui essaye de se battre d'ailleurs avec grosso modo les mêmes armes que les médias du privé sur leur terrain, donc qui n'est pas du tout étanche aux contraintes commerciales et non plus aux pressions politiques par ailleurs, sachant que il faut rajouter que évidemment, l'ensemble ce qu'on appelle des chefferies éditoriales, dirigeants de médias, pris collectivement, ils sont évidemment sociologiquement solidaires des intérêts des classes dirigeantes. Et c'est pas évidemment quand on parle de l'appropriation capitalistique des médias, des moyens d'information, c'est pas pour dire que ça explique tout. Et de fait, ça n'explique pas tout. Mais ça explique quand même un certain nombre de choses, au-delà de ce qu'on raconte maintenant qui est connu dans la critique, à savoir de dire que des médias sont utilisés comme des outils d'influence par les propriétaires sur le champ politique, que le fait que ce dont je parlais avant, qu'ils officient dans d'autres secteurs d'activité, ça crée aussi un verrouillage de l'information sur les activités industrielles et financières de ces groupes, etc. Bolloré, évidemment, est un bon exemple, mais en fait, c'est valable partout. C'est juste que lui, il le fait d'une manière beaucoup plus caricaturale et s'encombre pas des procès Bayon, notamment contre les journalistes qui osent enquêter sur ces affaires. Mais il y a plus que ça, dans le sens où la financiarisation des médias, donc la course à la rentabilisation, même si évidemment tous les médias ne sont pas rentables, mais ça imprime des dynamiques à la marchandisation de l'information, et ça c'est ça qui permet de comprendre la course à l'audimat, toutes les contraintes financières qui contribue à l'uniformisation de l'information, en tout cas à une production assez low cost de l'information et à un formatage du débat public qui privilégie les formats à bas coût plutôt que de laisser le temps, comme peut le faire le Diplo, mais aussi d'autres médias indépendants, à l'enquête sociale, au reportage digne de ce nom, etc. Donc voilà pour ça, je disais l'économie, on ne peut pas tout expliquer par ce cadre économique, mais en même temps rien ne s'explique sans. Et parce qu'on ne peut pas tout expliquer par ça, à Acrimed, c'est vrai qu'on est assez sensible et qu'on fait valoir aussi des considérants qui relèvent plutôt de la sociologie des médias. Donc on s'attache aussi aux pratiques des journalistes, aux routines, etc., pour pas tout idéologiser, quoi. Qu'il y a beaucoup de réflexes professionnels, de mythes professionnels, de contraintes intégrées, etc., qui sont pas forcément conscientes et qui par contre contribuent aussi à la production d'une information biaisée. Donc ça, c'est quand même important à retenir. Et puis dernier point là-dessus, c'est aussi toujours important de Et c'est aussi une conséquence des pressions commerciales. C'est aussi important de noter la verticalisation en fait du champ journalistique. Et donc, évidemment, pas mettre tous les journalistes dans le même sac, mais de relever que c'est une profession qui est très hiérarchisée et où il y a un pôle dominant qui est celui dont je parlais tout à l'heure, dirigeant de médias, chefferie éditoriale, les grandes vedettes, les commentateurs les plus en vue dans l'audiovisuel, ceux et celles que vous allez entendre tous les jours. Se dupliquent, qui sont interchangeables et qui aussi se dupliquent, squattent les fauteuils et les micros dans tout un tas d'émissions de pseudo débats qui n'en sont pas d'ailleurs. Ce sont ceux qui concentrent alors non seulement le pouvoir éditorial le choix des sujets, comment on va traiter les sujets, sous quels angles, etc. Et ce sont évidemment ceux qui vont concentrer bien plus. À savoir des gratifications symboliques et puis aussi accessoirement des revenus assez faramineux quoi. En tout cas en contraste avec ce que nous on appelle les soutiens de l'information et qui sont quand même aussi le gros de la profession qui n'ont pas tellement le choix des sujets, qui doivent faire plusieurs métiers en un, qui sont la plupart du temps très contraints, qui quittent d'ailleurs très souvent la profession complètement désenchantée, etc. Et si on regarde aussi les derniers travaux des sociologues, et ça c'est important à noter, c'est que entre ces deux pôles, aux deux extrémités, il y a quand même tout un secteur, une frange intermédiaire, on va dire, de la profession, disent les sociologues, qui est en voie d'embourgeoisement. Alors c'est en partie lié aussi au recrutement des écoles de journalisme qui recrutent parmi les professions aisées. Mais en tout cas, les sociologues notent qu'il y a une homogénéisation sociale par le haut de la profession. Donc c'est pas non plus donc ça concerne des journalistes en CDI, etc. C'est pas un petit détail, y compris sur l'évolution et puis après la façon aussi dont les contraintes, les consignes vont être intégrées et ou non critiquées en l'occurrence. Je fais un grand détour, mais voilà, pour nous c'est important de faire la nuance pour pas parce que ça a des implications très concrètes et puis parce que comment dire, il faut pas faire non plus de, on est souvent l'objet de mauvais procès, la critique des médias en général, on en discutait tout à l'heure, la critique des médias, comme tout un tas de sujets, y a un périmètre assez limité pour discuter de ça dans les médias eux-mêmes. C'est assez compliqué de porter. Je ne sais pas si vous pensez ou si vous avez déjà assisté à des émissions de débat ou des interviews qui réellement traitent de la question, mais c'est pas souvent que. Qu'elle est considérée comme une question politique légitime, ou en tout cas, quand elle est à l'agenda, on va dire que le périmètre de l'acceptable concernant la critique est assez restreint. Donc voilà, et dans le livre, on a essayé de compiler et revenir sur un certain nombre de séquences médiatiques qui nous ont paru importantes pour illustrer, en tout cas, la droitisation sans fin du débat public. Alors évidemment, ça date pas d'hier, mais qui a connu une accélération quand même très nette sous le premier quinquennat, à mesure que se dégradaient les conditions d'existence et d'expression de la gauche dans presque toutes ses composantes. Alors pour ce faire, on a découpé, on a fait un chapitrage qui revient d'abord sur sur l'élection, enfin les deux élections d'ailleurs d'Emmanuel Macron, sur sa figure en tant que telle. Tu l'as dit sur le traitement des réformes. Donc ce premier chapitre s'appelle le journalisme, un journalisme de cours. On a un second chapitre sur le journalisme de dédiabolisation entre guillemets, qui la concerne davantage l'extrême droite, qui est peut-être ce sur quoi je vais insister ce soir. Un journalisme de classe, le troisième chapitre, où là c'est plutôt, il est plutôt question de l'information économique et sociale, avec, tu l'as dit, un verrouillage là encore du périmètre acceptable, un monopole évidemment absolu de la pensée et de la parole libérale sur l'information économique, à travers l'étude évidemment de tout un tas de choses, à la fois de séquences, mais aussi du profil des journalistes économiques qui ne sont pas connus spécialement pour leur positionnement hétérodoxe en matière économique. Et ce, à peu près partout dans les médias dominants. Voilà, et le quatrième chapitre concerne le journalisme de préfecture. Je ne sais pas s'il y a Acrimed à la... est à l'origine de l'expression, je crois que si. Donc là, il est plutôt question, comment dire, de l'accompagnement de l'ordre par les médias dominants, du traitement ou plutôt du non-traitement, non-traitement et maltraitement des violences policières. On revient évidemment sur la séquence des Gilets jaunes qui a été particulièrement spectaculaire d'un point de vue médiatique, notamment sur ce terrain des violences policières, mais évidemment pas seulement, parce que ça recroise aussi un mépris, voire une haine de classe qui s'est littéralement déchaînée à cette période, avec évidemment beaucoup de mensonges et de manipulations aussi de l'information. Et enfin, le dernier chapitre, en fait, est plus directement... sur la gauche, plus frontalement sur la gauche. Et là, on revient sur le traitement des manifestants, en particulier pendant la mobilisation contre la réforme de retraite de 2019, mais pas que. On revient aussi sur les mobilisations écologistes, et puis sur une séquence qui, selon nous, a été structurante. Je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir. Sur la véritable cabale menée par un certain nombre de grands médias et aussi beaucoup de grands éditorialistes à la suite de l'assassinat de Samuel Paty, cabale contre les islamo-gauchistes, qui a été très très forte à cette période. Et enfin, on termine le bouquin sur la création de la NUPES, et sur le traitement littéralement indigne qui a été fait à cette période à la fois du processus d'accord, mais de la NUPES en tant que telle. On avait eu l'occasion, avec le président aussi d'Acrimed, Mathias Raymond, de compléter l'analyse qu'on avait faite sur le site d'Acrimed dans le monde diplo aussi à cette période. Voilà, je vais peut-être, je ne sais pas quelle heure il est. Il y a encore un peu de temps. Je vais peut-être faire un... parce que ça serait hyper long de développer forcément tous les chapitres. Je pense que je vous laisserai aussi poser des questions et relever ce qui vous intéresse ou m'interroger sur ce qui vous intéresse. Peut-être faire un point sur la banalisation de l'extrême droite. J'aime plus trop ce terme, en fait, parce qu'on n'en est même plus à ce stade. On parle de normalisation... de l'extrême droite par et dans les médias dominants, comme on en parle comme d'un processus largement abouti à ce stade. Je préférerais parler de ça parce que c'est aussi y a beaucoup d'exemples dans l'actualité. Après, c'est pas pour vous le vendre, mais le livre est quand même particulièrement d'actualité. En tout cas, pas mal de compréhension, de clés de compréhension peuvent servir à analyser des séquences actuelles dans le traitement médiatique. Mais pour vous parler peut-être de la normalisation médiatique de l'extrême droite. C'est un point qui nous semble important, sur lequel on a beaucoup, beaucoup travaillé dans Acrimed au cours des 5 dernières années. Évidemment, pour, pour, euh, pour appréhender en fait la normalisation médiatique de l'extrême droite, le travail d'Acrimed, il a toujours dépassé le traitement médiatique du RN, FN en tant que tel. En fait, on essaye de dégager, on va dire, des tendances de fond qui ont trait à la fois au traitement de l'information, mais aussi évidemment à la structuration du paysage médiatique, pour essayer de comprendre vraiment le phénomène. Alors, le phénomène le plus évident quand on s'intéresse à cette question, c'est évidemment le développement et la consolidation ces dernières années d'un pôle, on va dire, frontalement réactionnaire, hein, à travers, bien sûr, l'Empire Bolloré, dont la prédation, on va dire, sur les médias s'effectue avec la complaisance de l'ARCOM, qui est censé être le régulateur de l'audiovisuel, mais aussi, évidemment, avec la complaisance des pouvoirs publics qui ont renoncé, et ce, quand même, depuis plusieurs décennies, à entreprendre des politiques publiques ambitieuses en matière de propriété et de concentration des moyens d'information et de communication. Donc la critique de Bolloré, évidemment, elle est nécessaire ce qui est servi dans ces médias, principalement CNews, qui est vraiment, là on a une vitrine d'extrême droite et une ligne éditoriale assumée. Donc ça fait évidemment beaucoup de mal, la critique est nécessaire. Simplement, c'est pas qu'on met un bémol, c'est que, disons qu'à Acrimed, on va toujours plus loin que ce qui peut être assez facilement dénoncé, y compris par des journalistes politiques qui vont pouvoir critiquer CNews, etc., dire que CNews, c'est très mal, mais qui s'arrête là. Or, pour nous, c'est quand même important de quand même déconstruire ce qui relève, pour le coup, d'un vrai mythe professionnel qui postule une étanchéité entre ces médias et le reste du paysage de l'information. Il faut quand même rappeler, par exemple, que en matière de banalisation de l'extrême droite, combien des médias dits respectables, en tout cas des médias généralistes, ont contribué à construire la crédibilité et la stature publique de nombreux commentateurs qui travaillent aujourd'hui, enfin commentateurs ou personnalités publiques réactionnaires qui travaillent aujourd'hui pour le groupe Bolloré, et combien ont été nombreux les médias dits respectables, encore une fois, à avoir légitimé, autorisé, voire encouragé en leur sein les discours que ces commentateurs pouvaient tenir. Bon, le cas le plus emblématique, ça reste évidemment Zemmour, puisque Zemmour, comme chacun le sait, n'est pas né avec Face à l'info, l'émission animée par Christine Kelly sur CNews, mais c'est évidemment un journaliste politique très inséré dans le milieu, qui a travaillé pour le dit respectable Figaro, qui a eu le chroniqueur qui a eu la plus longue longévité dans l'émission de France 2 chez Ruquier, qui a eu fauteuil ouvert dans des débats chez Léa Salamé, par exemple, quand elle présentait des émissions des talk-shows sur LCI. C'est quelqu'un, évidemment, auquel les médias ont réservé systématiquement des tournées à l'occasion de la parution de ses ouvrages, etc., etc. Donc c'est quelqu'un quand même qui est très inséré dans le milieu médiatique et qui a bénéficié quand même d'une complaisance extrême de la plupart des commentateurs, dont évidemment la conversion, on va dire, de son capital médiatique en capital politique à l'occasion de sa pré-campagne en 2021 reste vraiment un des exemples les plus spectaculaires de ça, quoi. On l'avait détaillé en long, en large et en travers à la sueur de notre front, j'allais dire, sur le site d'Acrimed, tant d'un point de vue quantitatif d'ailleurs que d'un point de vue qualitatif. Mais voilà, pendant 3 mois, alors que quelqu'un C'était quelqu'un qui n'avait pas déclaré sa candidature. Il a littéralement été le centre de gravité du débat public pendant 3 mois, et puis ça a duré encore après. À tel point que l'ARCOM, quand même, a dû émettre des signalements, mais en gros, une petite tape sur les doigts de 11 médias pour surreprésentation, dont certains du service public, dont France Inter, par exemple, pour surreprésentation de Zemmour en temps d'antenne et ou en temps de parole. Donc voilà, c'est un cas exemplaire, mais en fait, on pourrait multiplier les exemples. Geoffroy Lejeune, je ne me rappelle plus exactement son statut, mais directeur, je crois, de rédacteur en chef de Valeurs Actuelles. Il y a eu toute une indignation de la profession qui a pleuré à chaudes larmes quand il a pris la tête du JDD. Il faut dire que la profession aussi avait construit la stature publique de Geoffroy Lejeune et l'a construite pendant 10 ans en l'invitant, là encore, dans de très nombreux médias, en le salariant comme chroniqueur, et que là, d'un coup, ça semblait pas forcément poser de problème. Donc voilà, cette circulation des chroniqueurs réactionnaires à travers les médias, et puis évidemment la circulation de discours réactionnaires, de discours racistes, elle n'est pas cantonnée aux médias Bolloré, donc c'est toujours important de le rappeler, même si les médias Bolloré en sont la vitrine la plus outrancière. Et je dis ça, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse en nivelant évidemment toutes les lignes éditoriales. L'idée, c'est pas de dire France Info égale CNews, quoi, mais de noter quand même un continuum entre les médias. Donc ça, média de la réaction, réactionnaire dans les médias, c'est le phénomène le plus évident pour appréhender la normalisation de l'extrême droite, ou en tout cas c'est un bon symptôme. Il y a beaucoup de bons symptômes. Un phénomène sur lequel on insiste beaucoup, c'est la dépolitisation de la politique. La dépolitisation de l'extrême droite et la pipolisation du RN. Donc ici, la critique, elle va plutôt porter sur les pratiques des journalistes politiques, hein, et le mode de traitement, on va dire, dominant de l'information et de l'actualité politique. Donc là, je vous le fais pas en détail, mais c'est évidemment une mise en scène théâtralisée du jeu politicien au détriment des enjeux de fond. Donc ça va être une focalisation permanente sur les passes d'armes, sur les petites phrases, une polarisation permanente de l'attention sur les stratégies de communication, sur la forme de la communication, une obsession pour les bruits de couloir, une auto-intoxication aux enquêtes de popularité, aux sondages d'opinion, malgré 50 ans de déconstruction quand même de cet outil par les sciences sociales et surtout de leur mésusage médiatique. Donc ça, c'est le traitement ordinaire, on va dire, qui touche tous les partis politiques. Mais disons que donc c'est déjà néfaste en tant que tel, parce que quand même il faut aussi rappeler que ça contribue à dégoûter et à détourner quand même de larges fractions de la population de la politique. Mais c'est aussi avec cette même lorgnette, on va dire, que les journalistes politiques traitent l'extrême droite et contribuent en permanence à sa banalisation. Donc c'est vraiment un journalisme de commentaire, hein, présentiste, qui n'en finit plus de jauger ce courant politique à un instant T sur la base, je le disais, de petites phrases, et qui passe son temps à communiquer sur la communication. Ça a été encore plus flagrant à l'occasion des dernières élections présidentielles. On a quand même entendu, par exemple, mais c'est une goutte d'eau dans l'océan du journalisme de commentaires qu'on pourrait relever, Jean-Michel Apathy, qui est un bon thermomètre, on va dire, de cette éditocratie triomphante, j'allais dire, en tout cas, du cercle de la raison, comme ils aiment à se désigner eux-mêmes, à s'auto-désigner. Jean-Michel Apathy, qui déclarait, par exemple, à propos du RN, et parce qu'il commentait une affiche de campagne sur laquelle Marine Le Pen avait écrit, je pense, c'était écrit, il y avait le mot « liberté ». Et donc, de mémoire, je cite, il disait... On ne peut pas dire d'un parti qui dit que la liberté est une de ses valeurs fondamentales qu'il est d'extrême droite. Voilà, c'est sur la base de ça quand même, mais vous pouvez multiplier par 1 000, par 10 000 ce type de commentaires qui accourt à peu près partout sur les plateaux. Voilà. Et parce que ce journalisme-là est dominant, ce mode de traitement de l'actualité politique et de l'information politique sur l'extrême droite n'est que très très rarement compensé par un travail de fond sur les pratiques de l'extrême droite, sur aussi leur politique, que ce soit dans les mairies, que ce soit au Parlement, que ce soit au Parlement européen, etc., sur ceux qui votent, par un travail d'enquête, par un travail de reportage digne de ce nom, le décalage est tellement énorme que ça ne fait que renforcer la banalisation en permanence. Et évidemment, quand je parlais de la faiblesse de l'information sur le fond des programmes, en l'occurrence là en période électorale, c'est une désertion quand même du journalisme politique sur la question quand même de la préférence nationale, qui ne semble vraiment plus inquiéter personne dans le journalisme politique, voire qui est complètement c'est quand même la colonne vertébrale de ce parti. Juste un système socio-économique discriminatoire quand même en fonction de l'origine, ça fait la colonne vertébrale, et c'est quelque chose qui est quand même quasi systématiquement, et en l'occurrence pendant la campagne présidentielle, qui a été quasi systématiquement passé sous le tapis, et qui permet tout un tas de mystifications que vous entendrez très régulièrement, par exemple le rapprochement entre les programmes économiques de la gauche et du RN. Voilà. On en est là, donc là non plus c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qu'on peut entendre régulièrement. Et donc voilà, la fameuse entre guillemets dédiabolisation qui était il y a 10 ans, qui n'était qu'une prophétie médiatique qui se contentait d'oraliser la communication du FN lui-même sur lui-même, eh bien c'est devenu par le prisme de ce journalisme politique là une pratique professionnelle à part entière, et dont on donne à peu près 1000 exemples dans le livre, et puis depuis évidemment sur le site d'Acrimed. On parlait du rôle des sondages quand on étudie le journalisme politique, et en particulier la banalisation de l'extrême droite, c'est une question très importante. Là, je pourrais pas forcément rentrer dans le détail, mais dans le bouquin on étudie de manière assez précise la construction du duel Macron-Le Pen par biais de sondages, et ce pendant toute la durée quand même du quinquennat d'Emmanuel Macron, dès le lendemain en fait de son élection. C'est une petite musique qui a commencé, et c'est une petite musique qu'on retrouve en fait, cette je disais, la bipolarisation en fait du champ politique, c'est une petite musique qui revient sans cesse et qui vient se greffer à peu près n'importe quelle actualité. Je pense que vous avez tous et toutes entendu pendant le grand mouvement social contre la réforme des retraites au début de l'année, vous avez forcément entendu ce slogan, que ce soit dans la presse, à la radio, à peu près partout: Marine Le Pen, grande gagnante de la séquence des retraites. Donc voilà, on avait beaucoup décortiqué ça sur le site, qui est un slogan qui se basait sur rien, à part des bruits de couloir et des sondages d'opinion, là encore pris sans aucune distance, des sondages qui, en l'occurrence, en plus, pour une partie d'entre eux, parce que c'était des sondages électoraux, étaient particulièrement ineptes, puisque, par exemple, ils préfiguraient une élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, ce qui avait absolument aucune chance de se reproduire. Donc voilà, il y avait tout un tas de mystifications, de biais, qui ne sont jamais remises en cause, et qui ont contribué à installer très très vite en fait ce slogan, qui n'était pas interrogé mais qui était répété comme une évidence dans le débat, et qui a contribué y compris à cadrer un certain nombre de débats, y compris face à des responsables politiques de gauche. Et je dis très tôt parce qu'en réalité, au bout de 2 semaines de mouvement social, c'était déjà le cas, alors que c'était un moment où justement le RN était quand même renvoyé dans les cordes, puisque le parti n'avait évidemment aucun rôle de construction dans le mouvement social, mais c'est voilà, une petite musique qui a contribué à installer à l'agenda la prédominance politique du RN et qui a fait que c'était à un moment ce dont on devait parler, ce à quoi on devait penser. Voilà, je pourrais parler aussi de évidemment la pipolisation de l'extrême droite, qui est un autre versant, on va dire, exacerbé de la dépolitisation de la politique. Donc là, vous avez forcément plein d'exemples en tête. Hein. Pendant la campagne, ça a été les chats de Marine Le Pen, beaucoup. Et on va dire, ce qui est intéressant là-dedans, dans la critique des médias, c'est vraiment l'imprégnation d'un mode de traitement d'ordinaire cantonné à la presse people. Et l'imprégnation de ce mode de traitement dans les émissions généralistes, y compris des grandes émissions politiques, donc qui favorise un mélange des genres, qui est là aussi propice à la banalisation de l'extrême droite. Un troisième point qu'on met en avant, c'est la co-construction des cibles de la peur et de la haine. Quand on parle de ça, on souligne principalement deux choses. D'une part, à quel point les préoccupations historiques de l'extrême droite, à savoir islam, immigration, insécurité, sont largement et régulièrement surexposées à l'agenda médiatique. Et d'autre part, combien ces thématiques ont été, au cours des 30-40 dernières années, de plus en plus traitées selon des angles qui font écho à la manière dont les problématise le RN lui-même. Donc c'est des raccourcis qui sont pas forcément le fait de tous les médias, qui sont pas systématiques, mais qui constituent quand même des tendances très lourdes, en particulier dans l'audiovisuel et dans la presse hebdomadaire. Un cas d'école dernièrement, c'est une émission de France 2, hein, sur l'immigration, qui était intitulée Immigration, comment mieux la maîtriser, par exemple, ce qui est quand même le cadrage dominant quand on parle de cette question dans les grands médias. Je vous renvoie à une émission de déconstruction de cette émission très très bonne qu'a faite le youtubeur Usul. Voilà, émission qui était animée, voilà, là on est sur France 2, hein, émission qui était animée par Caroline Roux. Cette co-construction, on va dire, des cibles de la peur et de la haine, elle peut se faire de manière, c'est ce qu'on montre dans le bouquin, elle peut se faire de manière relativement autonome dans la fabrique de l'actualité des grands médias, mais la plupart du temps, elle révèle surtout un point fondamental qui est quand même leur dépendance ou leur suivisme à l'égard de l'agenda politique. Et donc évidemment, sur ces thématiques, sur les 5 dernières années, on a quand même été plutôt bien servi, puisque Macron n'a évidemment pas lésiné sur le tournant autoritaire, mais ce qu'on relève, c'est qu'il faut évidemment remonter bien 30 ans, 40 ans en arrière pour prendre la mesure de la droitisation du champ politique sur ces questions et de celle, du coup, en parallèle des médias dominants et de leur chefferie éditoriale. Voilà. Souligner là aussi que sur ces questions, et quand on parle du délitement du débat médiatique ou de la locustisation des débats, je ne sais pas comment on peut le dire, mais c'est quand même un point, le formatage en tout cas du débat public, c'est un point important à relever, puisque sur ces thématiques, mais comme d'autres, disons que les débats tels qu'ils sont organisés, les dispositifs, servent ou en tout cas ne desservent pas du tout l'extrême droite, contrairement à des interlocuteurs qui soient issus de la gauche dans le champ politique, mais plus généralement en fait des interlocuteurs qui soient en capacité d'apporter des contradictions étayées aux thèses xénophobes, aux thèses sécuritaires, etc. Voilà, les dispositifs servent plutôt les interlocuteurs d'extrême droite, puisque comme je le disais, ils vont pas avoir besoin de déconstruire le cadrage généralement des débats tels qu'ils se présentent, ils vont être moins interrompus. Leurs idées font quand même office de discours dominants, donc qui seront pas forcément contredits, etc. Donc ils nagent quand même dans ces débats comme en général comme des poissons dans l'eau. Et voilà. Et donc chemin faisant, c'est vrai que on on arrive à une situation où, évidemment, les diagnostics de l'extrême droite ne sont plus questionnés et qu'en conséquence, seules varient les solutions dont le périmètre acceptable, là encore, va généralement quand même de la droite à l'extrême droite. On en donne un certain nombre d'exemples, là encore, dans le livre. Voilà, donc quand on parle de rétrécissement et de droitisation du débat public, c'est quand même des points importants à rappeler. Il y a, je vous le disais, vraiment beaucoup de symptômes, mais disons, pour reprendre aussi un point que j'évoquais tout à l'heure, la circulation, par exemple, d'une théorie comme le grand remplacement, comme islamo-gauchisme, etc., c'est quand même des symptômes assez flagrant de cette droitisation du débat public. Grand remplacement, là encore, quoi, c'est pas cantonné à CNews. Pendant la campagne, on décrit toute une séquence, là encore, sur France 2, une grande émission politique pendant la pré-campagne présidentielle, animée par Léa Salamé et Thomas Soto, qui avait invité, je crois que c'était Valérie Pécresse et Gérald Darmanin, un débat très et les deux invités étaient lancés et relancés à 5 reprises sur la question, par exemple, du grand remplacement. Donc, il y a beaucoup de choses que les éditorialistes estiment illégitimes de pouvoir ne serait-ce que discuter dans un débat. Visiblement, la thématique du grand remplacement n'en fait pas partie, puisque on est capable de relancer à 5 reprises des invités sur le sujet. Voilà. Et puis... Le dernier point qu'on soulève quand on parle de banalisation de l'extrême droite, c'est évidemment la mutilation des débats. Donc j'en ai quand même largement parlé, mais c'est important de comprendre que évidemment c'est sur toutes les questions, ça va être sur les questions économiques, sur les questions sociales. Là on est évidemment en plein dedans, mais sur les questions internationales. Il y a quand même un double mouvement de plus en plus fréquent et de plus en plus féroce qui est exprimé. C'est une légitimation de l'extrême droite et une légitimation de ses représentants, crédibilisation de ses représentants, versus, on va dire, une diabolisation permanente de la gauche et en particulier, évidemment, de la France insoumise, qui est, à dire à gauche, voilà, le parti qui, de fait, pèse le plus. C'est valable pour beaucoup de questions, mais en l'occurrence, il y a vraiment... Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a une multiplication de séquences vraiment sous forme de cabale médiatique, où les médias dominants agissent vraiment comme des rouleaux compresseurs. C'est des séquences de plus en plus rapprochées, où il y a vraiment des campagnes systématiques qui restreignent vraiment la liberté de parole, qui restreignent le périmètre du débat. Et je vous parlais de l'islamo-gauchisme, mais c'est au moment de cette séquence ce qu'on disait, et c'est valable aussi pour d'autres séquences maintenant, c'est que il y avait un double phénomène qui est important à saisir. C'est à la fois une extension des cibles des éditorialistes, des commentateurs, encore une fois, les plus en vue, des cibles dans l'espace journalistique à gauche, dans le champ politique, parmi les associations, etc., étaient... la cible justement d'attaque de complicité en terrorisme. Donc après l'assassinat de Samuel Paty, complicité avec l'islamisme, etc. Une extension, voilà, des personnalités qui étaient visées par ce type d'accusation, très souvent sans que, encore une fois, les fondamentaux du journalisme soient au rendez-vous, le contradictoire, juste des faits un peu étayés, etc. Mais aussi, le deuxième pan de ce phénomène, une extension des médias dans lesquels allait circuler ce type d'accusation, parce que l'islamo-gauchisme, c'était très cantonné, pendant longtemps, ça a été cantonné, on avait fait une recherche pour un peu le quantifier avec Acrimed, c'était beaucoup cantonnés aux pages du Figaro, aux pages du Figaro Vox, etc. Et là, on voyait que l'accusation était encore une fois mise en débat et discutée dans vraiment un nombre beaucoup plus important de médias, audiovisuels, presse écrite, presse quotidienne et tout. Voilà.
Même audio, une mémoire sonore.
Alors une remarque, juste pour le plaisir, je vous recommande, puisqu'on a parlé de Jean-Michel Apathy, de faire une petite recherche sur Internet, vous le trouverez facilement, vous tapez Apathy Kissinger, et vous verrez la nécrologie qu'il a fait de Kissinger. Alors, c'est assez remarquable, parce que c'est quand même pas quelqu'un qui soit tout à fait à classer du côté de la gauche, mais dans cette nécrologie, il le traite quand même trois fois de salaud, hein, en direct sur TF1, etc. Donc c'est quand même, ça fait du bien de l'écouter. Après, je voudrais signaler qu'il y a eu une émission, c'était dimanche soir, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont entendu, sur France Culture. J'ai eu l'occasion de parler avec Anne-Cécile Robert, qui est la directrice adjointe du Monde diplomatique, qui était invitée par le journaliste qui s'appelle Martin, je crois, ou le journaliste d'une émission de 18h-20h, c'est Softpower. Donc, elle avait accepté. Vous savez, le diplôme passe rarement dans les médias. Anne-Cécile Robert, directrice adjointe du Monde diplomatique, avait accepté l'invitation de Soft Power parce que c'est les 70 ans du monde diplomatique cette année. Alors l'émission s'est déroulée d'une façon très particulière parce que elle a eu très peu de temps de parole en fait, puisque c'était essentiellement des enregistrements faits avant l'émission. Alors il y avait des choses très intéressantes de Claude Julien, d'Ignacio Ramonet, de Bernard Cassen. Et progressivement, le journaliste a mené l'émission et l'intervenante, donc Anne-Cécile Robert, à une situation très paradoxale. Parce que l'avant-dernier intervenant qui a eu la parole largement, parce qu'il a parlé pendant un quart d'heure, c'était Dominique Vidal. Dominique Vidal est un ancien du journal, mais il est un petit peu en froid dans le journal parce qu'il a pris des positions un petit peu particulières par rapport à un certain nombre de choses. Dominique Vidal, il arrive à dire dans son enregistrement, puisque c'est une voix enregistrée, que finalement... le diplôme, il n'a pas bien pris le tournant de la fin du mur de Berlin, de la chute de l'Empire communiste, et que aujourd'hui, comme il reste toujours dans un anti-américanisme primaire, je vous le fais simple, hein, parce que c'était en gros ce qu'il disait, dans un anti-américanisme primaire, donc finalement, comme les amis de ses ennemis sont ses amis, ben finalement le diplôme il devient l'ami de Poutine, de Xi Jinping, etc. Alors c'est assez gravissime ce genre de choses. Le problème c'est que derrière Anne-Cécile, on était à la fin de l'émission, elle a eu très très peu de temps pour répondre, et dire très peu de choses, elle a même coupé la parole aux journalistes, et derrière ça, on lui a placé encore un enregistrement d'Alain Grèche, qui disait des choses beaucoup plus posé et sensé. Mais voilà, je veux dire, c'est ce type de manipulation médiatique auquel on assiste en permanence, où quand il y a des gens, y compris Mélenchon, mais Mélenchon n'est pas toujours très patient et n'a pas toujours nécessairement les meilleures réactions. C'est ce type de manipulation médiatique qui sont absolument outrancières. C'est scandaleux. J'ai écouté l'émission, je ne savais pas quelle y était, je l'ai vu par hasard, mais je vous garantis, réécouter l'émission, au moins les 20 dernières minutes, vous la trouverez enregistrée sur les sites de France Culture, c'est intéressant de voir ce type de manipulation. Voilà. J'ai l'impression que le micro fonctionne. Tu veux faire un commentaire ?
Ouais, j'ai écouté l'émission hier soir. Et le problème réside pas tant dans l'interview de Dominique Vidal en tant que telle, y compris c'est légitime en tout cas pour l'émission de faire valoir des divergences. Le problème, c'est celui que tu soulevais à la fin, c'est les conditions d'expression et en l'occurrence effectivement et pas qu'à la fin, mais c'est que il y a pas les mêmes conditions de réponse pour elle que les entretiens, voilà, parce qu'elle est depuis le début, enfin dès le début de l'émission, elle est beaucoup coupée. Il y a beaucoup d'interventions en fait du journaliste qui parfois, y compris, pose des questions et fait les réponses à sa place. On a l'impression que, mais comme c'est souvent le cas hein, dans des émissions, en tout cas des on en parlait tout à l'heure, mais des émissions de débat ou en tout cas des grandes interviews politiques, c'est des lieux médiatiques qui servent davantage, faut pas non plus tordre le bâton à ce point-là peut-être, mais quand même, qui servent davantage à faire valoir les intervieweurs et les commentateurs que la parole et l'expression des invités qui sont pourtant invités, quoi. Et donc là, il y a effectivement, elle a du mal à, d'ailleurs elle s'énerve, je crois qu'elle dit, il y a un moment où j'arrive pas à en placer une. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a, je sais pas s'il y a, par exemple, une minute de parole en continu. Probablement, mais bon, c'est pas une minute, c'est rien, quoi, pour aborder aussi, y compris des problèmes politiques qui peuvent se poser, qui ont pu se poser et qui peuvent être légitimement discutés, y compris dans un média. Le problème, c'est encore une fois, c'est l'iniquité des conditions d'expression et l'interruption assez systématique du journaliste, ouais. Mais bon, ça, c'est. C'est un grand classique dans le dispositif de débat. On en parlait et c'est quasiment pas possible de même y compris. Enfin, on parle souvent de ça pour les chercheuses et les chercheurs, mais vraiment de trouver des dispositifs dans lesquels il soit possible d'exprimer vraiment le fond de sa pensée, c'est quand même. Toutes les contraintes journalistiques en fait vont contre le développement de cette pensée. Je pense là spontanément à une émission spéciale qu'avait fait encore France 2, mais sur le conflit israélo-palestinien. Très tôt, je crois que c'était le 19 octobre, il y avait Bertrand Badi. Il a eu, je pense, sur plus d'une heure d'émission, il a dû avoir en tout peut-être 5 minutes de temps de parole. Et entrecoupé, etc. Ça passait du coq à l'âne. Il y a eu 1000 thématiques différentes dans la thématique. Ça, c'est impossible en fait de réellement développer un propos construit, étayé, etc. Et encore une fois, sur des questions, en l'occurrence où voilà, où le récit médiatique dominant est quand même fossilisé. Depuis des décennies, il faudrait bien davantage de temps et surtout des dispositifs où on n'est pas quatre contradicteurs en face, contradicteurs en l'occurrence quoi, qui peuvent eux, enfin qui ont toute latitude évidemment de s'exprimer dans des conditions bien meilleures et ce depuis très longtemps. Donc voilà, c'est sur tous les sujets, c'est ça. Après, ça pose la question de on y va ou pas. Pour y faire quoi? C'est une très très vaste question qui se pose aussi différemment en fonction des interlocuteurs, quoi. C'est sûr qu'un chercheur ou une chercheuse n'aura pas forcément la même réponse qu'un homme politique, etc. Mais c'est toujours, en tout cas, intéressant de. Enfin, c'est toujours nécessaire de politiser, dans le bon sens du terme, quoi, de politiser le rapport aux médias et de ne pas imaginer, évidemment, qu'on va arriver dans un dispositif vierge avec une expression ouverte, quoi.
Pour compléter, je dirais, pour en parler à Anne-Cécile Robert, elle disait elle-même qu'elle considère qu'elle est tombée dans un traquenard. Et elle a mis les choses au point avec le journaliste après l'émission, mais c'était fait. Voilà, donc le mal était fait.
Bonsoir. Je voudrais revenir sur l'épisode Zemmour, qui me paraît quand même extrêmement intéressant. Il y a eu un soutien massif de Bolloré à Zemmour, effectivement. Ou plutôt, il l'a mis massivement en avant. Mais l'enjeu n'était pas tellement électoral, visiblement. Il était plus économique, puisque à un moment donné, Bolloré a retiré aussi brutalement son soutien à Zemmour, ce qui explique peut-être en partie son échec électoral. Donc, il y a eu une instrumentalisation aussi de Zemmour et de l'extrême droite par un grand patron qui avait envie de faire pression sur Macron pour un certain nombre d'affaires qui l'intéressaient et qui, une fois qu'il a eu gain de cause, bon, a lâché Zemmour comme il aurait lâché n'importe qui. Donc, il me semble que aussi cette focalisation sur l'extrême droite, elle détourne un peu l'attention de l'extrême centre, qui est celui qui nuit actuellement, de tous ceux qui sont d'accord pour la croissance, le progrès économique, au centre droite, au centre gauche, de ceux qui tiennent vraiment les manettes, et qui effectivement agitent la peur des extrêmes. On voit bien en ce moment comment certains au gouvernement renvoient dos à dos, extrême droite, extrême gauche, etc. Et cette espèce de magma central qui, depuis des années, voire des décennies, oriente la politique et qui, en pratique, révolutionne nos modes d'existence. C'est-à-dire, Macron a quand même écrit un bouquin qui s'appelle Révolution, il fallait le faire. La révolution n'est pas forcément le monopole de la gauche ou de l'extrême gauche. Et bon, comme Marx l'avait déjà expliqué dans le manifeste du Parti communiste, la bourgeoisie ne peut se maintenir qu'en révolutionnant en permanence les moyens de production, les rapports de production et donc nos modes de vie. Donc voilà, j'aimerais votre sentiment là-dessus. Je suis pas du tout sûre que le cadrage, puisqu'on parlait de cadrage entre réactionnaire, vous avez beaucoup utilisé le terme réactionnaire et progressiste, permettre une analyse nuancée, vraiment, vraiment acérée de la situation. Merci.
On prend notre question ou...
Oui, enfin, c'est tout à fait différent. Je voulais savoir un peu comment, dans ce paysage médiatique, vous voyez les gros médias qui sont censés être plus ou moins à gauche. Je pense Le Monde, Libé, Libération, l'Obs, etc.
Donc sur la première question, sur la même la figure de Zemmour dont vous avez parlé au début, oui, rajouter, c'était de toute façon un produit d'appel et il était, enfin, il est comme Pascal Pro par ailleurs, avec mise en avant aussi de à pas d'audience, etc. C'est souvent ça qui est mis en avant et de fait. Il y a quelque chose qui marche puisque en tout cas sur la concurrence que se livrent les chaînes d'infos pour ne parler que d'elles, il y a évidemment une course entre CNews et BFM TV qui ne cesse de s'alimenter avec des recettes que BFM TV semble aussi vouloir emprunter à CNews. Mais plus largement sur votre question, vous avez raison. Comment dire, l'extrême centre n'est pas du tout épargné dans le bouquin. C'est l'objet du premier et du troisième chapitre. Peut-être que sur le clivage dont je parlais, ou en tout cas réactionnaire progressiste, peut-être ce qu'il faut commencer par dire et que je n'ai pas dit, c'est que pour nous, de toute façon, la totalité des chefferies éditoriales sont acquises aux politiques économiques néolibérales, quoi, telles qu'elles sont menées depuis 40 ans. Donc ça, c'est quand on parlait de l'absence totale de pluralisme sur l'information économique et sociale, c'est évidemment le préalable. Et après, on observe un découpage quand même entre... là, en gros, voilà, ça les rassemble. Ils sont à peu près tous d'accord sur ce truc-là. Et après, il y a quand même un clivage entre des médias frontalement réactionnaires et d'autres médias dits progressistes, parce que c'est pas tellement moi qui utilise ce mot. C'est, en tout cas, c'est un clivage qui, il y a beaucoup de journalistes, y compris qui l'utilisent, mais nous on peut le critiquer dans le sens où c'est des médias dits progressistes, malgré quand même leur aversion totale pour la critique radicale des systèmes d'oppression et de discrimination. Quand on parle de féminisme, de racisme, sur les questions de violence policière, etc., effectivement, la critique, là, elle n'est pas possible sur CNews, mais elle n'est pas non plus tellement possible dans des médias dits progressistes. Donc, je ne sais pas si ça répond plus ou moins à la question, où ça clarifie des choses, mais en tout, je sais pas. Là, pour moi, la question de la banalisation de l'extrême droite, en tout cas, c'est pas. Enfin, j'en parlerai pas forcément comme d'une diversion. En revanche, quand je parlais de dépolitisation de la politique, c'est plutôt le traitement, y compris sur les questions économiques, c'est-à-dire c'est le traitement qu'en fait le journalisme politique qui est problématique. On disait dans le bouquin, par exemple, que c'est quand même problématique que pendant une campagne électorale, le programme économique de Marine Le Pen et même de Zemmour soit traité avec une telle légèreté et que ce ne soit pas fait beaucoup plus mention qu'ont mis en avant des associations comme ATTAC ou les économistes atterrés, à savoir quand même la convergence d'un certain nombre de propositions en matière fiscale, par exemple, entre Zemmour, Le Pen, Macron et la droite, quoi. Mais ça, c'est des choses qui vont très rarement être à l'agenda. Mais ça fait partie de, quand on parle vraiment de verrouillage, encore une fois, hein, sur les questions économiques, ça fait partie des questions qui effectivement qui se posent pas, ou en tout cas qui sont pas à l'agenda. Et sur le monde, l'IB et l'Obs, c'est comment dire. C'est pas les mêmes. On n'épargne pas du tout dans le livre. Ni l'Obs ni Le Monde dès le début, parce que ça a été quand même, c'est quand même deux journaux qui ont été, notamment dans la consécration d'Emmanuel Macron, qui ont été quand même des acteurs assez puissants. L'Obs a fait je sais pas combien de couvertures sur Emmanuel Macron, et c'est quand on parle de la crédibilisation d'un candidat, encore une fois, les médias ne font pas les élections, mais ils contribuent quand même à peser sur le processus électoral par tout un tas de mécanismes inconscients, conscients. Mais en l'occurrence, la construction, la légitimation de la figure d'Emmanuel Macron en 2015-2016 par l'Obs a été quand même spectaculaire. Le Monde a quand même accompagné, c'est documenté, largement documenté dans Acrimed, on parlait des contre-réformes, en tout cas des réformes néolibérales. Le Monde a quand même légitimé la quasi-totalité de ces contre-réformes. Alors pas forcément la fleur au fusil, mais en tout cas a toujours quand même pris position, en tout cas dans ses éditoriaux, y compris dernièrement sur la réforme des retraites en 2019 qu'on traite dans le bouquin. Je vous épargne. Et là, au moment de la dernière élection présidentielle, il y a eu quand même une campagne outrancière pour Emmanuel Macron dans les pages du Monde. Et ce n'était pas du seul fait des journalistes, des éditorialistes les plus en vue, macronistes, facilement identifiables, type Françoise Fressoz, quoi. C'était vraiment, à un moment, la quasi-totalité quand même du service politique. On avait fait un article qui s'appelait « Macromania au monde ». Je ne sais pas si je peux vous lire quelques extraits de titres. Pouvoir d'achat, le bilan gagnant d'Emmanuel Macron, la situation de l'emploi s'est fortement améliorée sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, le projet d'Emmanuel Macron pour une France plus unie, Macron en surplomb dans une campagne brouillée par la peur, Emmanuel Macron 2, une promesse de changement dans la continuité, etc., etc. Et il y a eu ce qu'on a quand même des articles littéralement propagandistes. On était vraiment au début de la guerre en Ukraine. Je vous en cite le passage qu'on relevait dans le bouquin. Journaliste politique, même pas journaliste en charge de l'Élysée, journaliste politique lambda. Aux côtés de son enfant, une femme raconte son périple au chef de l'État. Son mari et sa mère sont restés en Ukraine. Vous avez des nouvelles ? Demande Monsieur Macron. Non, je m'inquiète beaucoup pour eux, répond-elle en pleurant. Après avoir tenté de les consoler comme il le pouvait, le président de la République se retrouve confronté au récit de trois petits garçons. Mon père est à Kiev, il combat, dit l'un, âgé de 6 ans, avant d'éclater en sanglots, expliquant être sans nouvelles de lui. Ton père se bat pour que ton pays soit libre. Nous, on va tout faire pour faire arrêter cette guerre, tente de le rassurer, Monsieur Macron, accompagné des ministres Gérald Darmanin et Marlène Schiappa. Enfin, je veux dire, c'est juste pas possible de lire des choses comme ça. Et ça s'est multiplié au moment de la campagne. Françoise Fressoz, c'est vraiment que le côté le plus caricatural de ce qu'on peut trouver. Elle écrivait, par exemple, « La facilité déconcertante avec laquelle Emmanuel Macron mène campagne rend le moment à la fois inédit et vertigineux. » Enfin, ça a été une succession quand même de choses comme ça. Donc il y a de toute façon un traitement et un journalisme politique au Monde qui réclame beaucoup de critiques aussi sur l'information économique et sociale. Après, je veux dire, on balance évidemment pas le journal à Acrimed dans son intégralité. Il y a évidemment des très bons journalistes. Là, notamment sur la situation quand même en Palestine, il y a eu des très bons papiers. Benjamin Barthes, qu'on avait aussi reçu à Acrimed pour parler de ça il y a quelques années, c'est des reportages excellents. Clotilde Marfco, qui était auparavant journaliste pour France 2, qui faisait d'ailleurs de très moins bonnes choses parce que le cadre était beaucoup plus contraint, audiovisuel oblige. Elle avait des tout petits sujets sur France 2, mais là, il y a eu des bons papiers. Sur les questions écologiques, il y a des très bons papiers. Donc voilà, c'est pas évidemment... c'est pas, la critique n'est pas uniforme et peut pas être uniforme ou voilà globalisante quoi, mais en tout cas dans des périodes de crise, dans des périodes évidemment de mobilisation sociale, en particulier contre ouais, des réformes économiques et sociales, Le Monde prend régulièrement position et fait partie des acteurs on va dire qui servent et qui accompagnent l'ordre établi, quoi. C'est documenté depuis 25 ans dans Acrimed et puis dans le monde diplo aussi, quoi. Après, l'Obs, je vous avoue que je ne le lis pas tellement. Voilà, donc je pourrais pas trop en parler parce que c'est pas un hebdo que je lis beaucoup, donc je saurais pas faire la critique correcte.
Je rajouterai sur Le Monde que Maurice Lemoine, qui était donc au monde diplomatique jusqu'à prendre sa retraite, et qui a écrit d'ailleurs ce mois-ci un excellent article sur l'Équateur, sur les élections en Équateur, qui ont vu à nouveau le retour de la droite, ou la continuité, puisque c'était... Et Maurice Lemoine disait donc, oui, si vous voulez avoir des informations sur l'Amérique latine, parce qu'il connaissait le responsable du service Amérique latine au monde, il vaut mieux lire Le Figaro que Le Monde. Et donc, voilà, ça, il l'a dit à plusieurs reprises, ce genre de choses.
J'avais une question concernant, justement, je rejoignais la question sur les journaux papier. Je regarde beaucoup de chaînes YouTube, notamment Blast, dans lequel vous êtes intervenu, Mediapart, bon après j'ai plus d'autres exemples, mais il y a le Canard Réfractaire, il y a aussi Le Média. Qu'est-ce que du coup vous pensez de toutes ces web journaux?
Oui, je descends le micro. Sur l'Obs, je voudrais rajouter une chose, il y avait récemment un article... fait par un reportage de Cédric Villani. Cédric Villani qui est allé visiter Julian Assange dans sa prison de haute sécurité en Angleterre. Et là-dessus, je ferai une remarque aussi, c'est que Julian Assange, c'est un véritable scandale au niveau journalistique, parce que c'est un prisonnier d'opinion. Hein, c'est un prisonnier d'opinion en Europe, aujourd'hui, en Angleterre en l'occurrence. On enferme quand même des journalistes, hein, parce que c'est d'abord un journaliste. Et il y a très peu de solidarité avec le corps des journalistes médiatiques, hein, ce que l'on voit partout. On n'entend jamais parler de cette affaire.
Sur les médias indépendants que vous avez cités, ben, ça fait partie des médias qu'il faut défendre. Je disais que c'était, pour nous, c'est là où se situait aussi le pluralisme aujourd'hui. Je pense que c'est ça. C'est des médias, ceux que vous avez cités, Blast, Mediapart, Le Média. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont, comment dire, exempts de critiques. On peut toujours, enfin, c'est toujours de toute façon bon de pratiquer l'autocritique, de voir ce qui peut aussi, comment dire, des formes aussi de réflexes journalistiques qui peuvent être questionnés, critiqués, etc. Mais c'est quand même des endroits où, quand on parle de pluralisme, il y a des interlocuteurs quand même différents, notamment une place quand même plus grande laissée au milieu universitaire, donc avec des chercheuses, des chercheurs qu'on n'entendra pas ailleurs, ou en tout cas pas dans les mêmes conditions d'expression. C'est des émissions qui n'auront pas forcément le même agenda, ou en tout cas qui vont renouveler aussi les agendas. Il y a d'autres angles, et c'est des médias aussi dans lesquels il y a une place quand même aussi plus grande laissée à l'enquête sociale, à la critique sociale et au reportage, quoi. Après, voilà, dans les médias indépendants, le problème aussi est celui de des conditions d'exercice aussi. Je pense que les contraintes économiques, elles se posent aussi, voilà, parce que c'est des modèles très précaires et qu'il ne faut pas sous-estimer aussi la surcharge de travail qui peut y exister, et notamment voilà, avec une confusion qui, en tout cas, selon moi, n'est pas souhaitable de mettre en avant, mais de regarder avec prudence, mais la confusion entre activité professionnelle et militantisme, où des fois la frontière, elle n'est pas simple à faire, je suis bien placée pour le savoir, et voilà, où c'est aussi, ça peut être difficile d'exercer, peut y avoir aussi des formes de pression aussi par ça, quoi. Donc, mais voilà, Blast, normalement, il nous avait proposé de faire une émission de critique des médias. Si on retrouve un peu de force, je pense qu'on essaiera de le faire. En attendant, il y a Usul qui fait aussi maintenant une émission de critique des médias avec, je me rappelle plus son nom, mais ouais, Rhinocéros, mais avec une autre youtubeuse, je ne sais plus si c'est Lumi ou un autre nom. Je ne suis pas spécialiste de Twitch, mais en tout cas c'est des formats. Voilà, il y a aussi renouvellement des formats, quoi, où c'est un peu intéressant. Acrimed, on est resté très sur un format écrit, on fait des articles longs qui peuvent être parfois un peu laborieux, ça nous est reproché par certains interlocuteurs des fois. C'est juste qu'on ne sait pas faire de la vidéo, mais on n'est pas du tout hostile à la vidéo. C'est juste qu'on ne sait pas faire, mais on accueille toutes les bonnes volontés.
D'abord, j'ai bien entendu votre message au tout début de la conférence et vous venez de le faire s'entendre encore une fois. Merci. Déjà que c'est un peu compliqué, je pense, pour nous qui sommes en dehors de tout ça et qui subissons plutôt de manière quotidienne et consommons du média. Je me doute que ça ne va pas être super facile pour quelqu'un qui bosse dedans. Donc merci, bravo et je vous souhaite de trouver la bonne distance à mettre par rapport à ça. Et maintenant, j'ai deux points. La première, c'est une question un peu naïve pour quelqu'un qui ne vient pas du tout du milieu, qui essaie de comprendre, de déconstruire un petit peu, c'est et l'ARCOM dans tout ça. C'est quoi le problème avec l'ARCOM? Comment ça se fait que l'ARCOM a toujours cette posture-là? On a toujours l'impression que ça arrive après. Enfin, tous les jours, on pourra entendre des. Tous les jours, on se dit, on entend, ah ben, ça a été signalé à l'ARCOM par X personnes, X personnes. Moi qui suis beaucoup l'actualité via les réseaux sociaux, et ça sera l'objet de mon deuxième point, j'ai l'impression que. À quoi ça sert? Est-ce que, selon vous et votre asso, c'est plus un problème de moyens, un problème de politique? Je ne sais même pas qui travaille au sein de l'ARCOM et pour qui il travaille. Ou est-ce que c'est structurel? Peut-être que l'ARCOM n'a même pas le droit de tant agir que ça. Donc je me pose vachement de questions sur ça et j'aimerais bien connaître quel est votre point de vue sur cet arbitre, soi-disant arbitre. Et peut-être que je vais profiter pour poser ma deuxième question en même temps. La deuxième question, c'est plus un commentaire. C'est que là, on a vachement parlé de télévision et de journaux papier. On vient aussi de parler un petit peu du côté un peu plus Internet avec le streaming, YouTube, ces choses-là. Il y a un point dont on n'a pas du tout parlé pour l'instant, c'est les réseaux sociaux. Moi, je lis que très peu de journaux papier. Je suis abonné à quelques journaux, quelques applications de journaux classiques mainstream. Mais je me documente vachement via des propos rapportés. C'est-à-dire que BFM TV et CNews, j'ai pas de télé chez moi. Ce qui se passe, c'est que je vois des extraits de BFM ou de CNews, etc., sur Twitter. Twitter qui est l'élément de conversation numéro un, notamment pour les politiques, aujourd'hui. Et donc la question, c'est quel est le futur de nos discussions qu'on a là? Est-ce que ça vaut le coup, en fait, d'essayer de sauver la télé et sauver le journal papier? Sachant que maintenant, j'ai l'impression que l'action, elle se passe sur des terrains où, encore une fois, c'est encore la même rengaine. Hein. Twitter, c'est Elon Musk, un gros industriel qui s'est fait attraper plusieurs fois pour des propos antisémites ou transphobes sur sa propre plateforme. D'ailleurs, on parle de Twitter, on pourrait parler de plein de choses. On pourrait parler de là, cette semaine, on a, je crois, l'Assemblée nationale qui dit de plus utiliser WhatsApp, des choses comme ça. Et pendant les émeutes d'il y a 6 mois, concernant l'affaire Noël, on a quand même un gouvernement qui a demandé et qui a réussi à l'obtenir de l'application Snapchat d'interdire de publier des stories dans certaines zones géographiques, à savoir là où il y avait des émeutes. parce que voilà, j'ai cru comprendre que une des membres du bureau de Snapchat avait bossé pour était une proche de Macron à un moment donné de sa campagne, je crois, une chose comme ça. Donc parlons pour mon deuxième point, c'est est-ce que c'est un angle mort de la conférence? Est-ce que c'est un truc que vous traitez dans votre asso? Quel est votre point de vue vis-à-vis des réseaux sociaux qui sont un autre canal, j'imagine, des médias? Merci.
Sur l'ARCOM, c'est effectivement un organisme assez fantoche, en tout cas sur le plan, enfin si on parle du plan vraiment régulateur audiovisuel, quoi, parce que enfin de toute façon on le voit bien, quoi, que il y a pas d'impact, il y a des sanctions qui viennent après. Bon là, il y a beaucoup de choses autour de CNews, etc. Mais en fait c'est minime en termes de régulation. C'est il y a absolument aucune prise en compte de et aucune prise en compte d'une critique radicale des médias par cet organisme, quoi. C'est enfin on reste vraiment à la surface des choses. Après il y a un rôle qui est intéressant, c'est que quand même ils ont des moyens, et notamment ils publient chaque année un baromètre de, je sais plus s'il s'appelle Diversité de la société française à la télévision et à la radio, représentation en tout cas de la société française à la télévision et à la radio. Et là, c'est des études qui sont assez éclairantes, qui, par exemple, chaque année, mettent en lumière la surreprésentation des cadres et des catégories socio-professionnelles les plus élevées dans tous les programmes en fait confondus, hein, que ce soit divertissement, information, etc. Évidemment, constat mécaniquement inversé par rapport au CSP-, et en l'occurrence aux ouvriers. Bon, il y a des données comme ça un peu chiffrées qui vraiment sur le plan Ça donne des billes intéressantes, mais sinon non, ils ont, enfin je sais pas, il y a pas d'effet, enfin et leur de toute façon leur avis ou les sanctions, les mises à l'amende ou je sais pas quoi n'ont pas d'effet en fait sur les chefferies éditoriales et encore moins sur les propriétaires. Je pense CNews s'est fait rappeler à l'ordre au moins 15 fois et il y a eu y compris des sanctions financières assez lourdes. Ça n'a absolument aucune incidence, mais parce que en fait le problème il est ailleurs, quoi. Il est vraiment parler de la structuration capitalistique des moyens d'information, là c'est ça qu'il faut viser, quoi. Ça sera pas des petits rappels à l'ordre écrits de l'ARCOM pendant les élections présidentielles. Il y a eu aussi des rappels à l'ordre. Vous avez trop surexposé Zemmour, vous avez surexposé Yannick Jadot, etc. Mais ça n'a aucune incidence. Il y a quelque chose qui est très intéressant quand on s'intéresse au pluralisme. C'est que c'est l'ARCOM édicte des règles quand même de temps de parole et de temps d'antenne, ou en tout cas régule, est censé réguler l'expression, enfin le pluralisme politique au sens strict, l'expression des différents partis politiques. Quand on regarde dans le détail en fait ces choses-là, pendant les périodes électorales, mais pas que, en fait en temps ordinaire, c'est l'ARCOM qui fixe. Enfin, il y a des critères qui sont établis pour après, qui sont laissés à la libre appréciation des chaînes radio ou télévision. Il va y avoir, par exemple, la représentativité à l'Assemblée, les résultats des dernières élections. Il va y avoir comme ça quelques critères un peu concrets, j'allais dire. Qui peuvent se baser sur des chiffres concrets, mais après il y a aussi des critères mais complètement abstraits où là mais c'est d'une opacité totale la manière dont les chaînes convertissent ces critères en temps de représentation pour les différents partis politiques. Ça va être par exemple l'animation du débat démocratique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment on convertit ce critère-là en temps de parole, en temps d'exposition, sachant que pour les chefferies éditoriales, quand même, l'animation, le degré d'animation du débat démocratique, comme ils l'appellent, pour eux, il y a une confusion en général entre l'animation et la visibilité dans l'espace médiatique lui-même, ce qui n'est pas du tout, le passage médiatique et l'exposition dans les médias. résume pas du tout l'animation d'un débat démocratique par les partis, quoi. C'est tout le militantisme, en fait. Par exemple, tracter sur un marché, ça en fait partie. Animer une réunion publique, ça fait partie de l'animation du débat démocratique, etc. Donc voilà, il y a des critères flous comme ça. Et ils prennent en compte aussi des sondages d'opinion, vu tout ce qu'on a dit sur les sondages d'opinion. Enfin, donc il y a comme ça un brouillage des pistes. Et là, pareil, c'est des choses quand même où il y a une opacité totale, en fait, sur à la fois... la manière, encore une fois, dont les chaînes traduisent ces critères en répartition du temps de parole, et sur la manière aussi dont l'ARCOM ensuite va évoluer la manière dont les chaînes auront fait leurs calculs, quoi. Voilà, là, on n'a pas d'informations. Ça fait partie des choses que tout citoyen devrait pouvoir avoir en termes d'informations.
C'est privé ou public ?
L'ARCOM publie le relevé des temps de parole des partis chaque trimestre, donc ça c'est public, mais par contre vraiment l'organisation par les chaînes de télévision et de leur radio de la représentation politique, ça je l'ai jamais vu, quoi. Et c'est impossible de mettre la main dessus, il faudrait enquêter, il faudrait aller faire le forcing auprès des directions éditoriales, et je sais même pas si on pourrait y avoir accès, mais en tout cas j'ai jamais lu ce truc là quelque part, quoi. Ce qui est quand même déjà un signe. Donc l'ARCOM, aucun espoir en l'occurrence dans cet organisme en termes de d'une quelconque régulation, enfin je veux dire les ornières sont tellement énormes qu'on ne peut pas espérer que quelque chose vienne de ça en l'état, en tout cas, ni du conseil de déontologie tel qu'il existe aujourd'hui, quoi, parce que c'est vraiment des pansements, des petits pansements, quoi. Et sur les réseaux sociaux, double réponse par rapport à ce que vous pointiez, c'est à la fois effectivement un angle mort de l'association pour à peu près les mêmes raisons, c'est-à-dire... manque de force, et puis mais c'est un champ sur lequel on ne lit pas assez, clairement. C'est pas faute de vouloir faire des articles, par exemple. Ça fait très longtemps qu'on envisage un article sur l'impact de Twitter sur le journalisme. Ça a des impacts sur le champ politique aussi assez important. Enfin, ça a des impacts de toute façon, mais en tout cas, un article sur les usages et les mésusages de Twitter par les journalistes qui utilisent beaucoup ce réseau social en plus d'être un moyen de communication pour les personnalités politiques, ça ce serait hyper intéressant. Mais voilà, on n'a pas forcément les forces pour le faire, mais c'est fondamental. Et puis là, on rejoint aussi ce que tu disais, quoi. C'est aussi privé. Il y a une grande opacité sur la manière dont ça fonctionne, une grande opacité aussi sur les règles qui sont mises en place sur le fonctionnement de ces réseaux. Et puis après, je pense pas que... je sais pas si c'était ton propos, mais de dire... nous, on dit pas que tout se passe là, parce que comme tu le disais, en fait... sur ces réseaux-là circulent de toute façon des contenus qui sont produits par les grands médias, quoi. Quelque part, l'analyse, elle devrait se faire plutôt sur comment tout ça s'entretient et sur les mésusages, les pratiques et tout ce que ça peut entraîner, quoi. Après. Voilà, c'est sûr que c'est pas quelque chose qu'on a beaucoup creusé, et ça manque.
Bon, vu que l'heure tourne, on va peut-être s'arrêter maintenant. On va remercier Pauline Pernaud pour son intervention. Merci encore. Merci à vous, bonne soirée, et à très bientôt.
Même audio, une mémoire sonore.